Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Mario Dumont et Vincent Dessureau. Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
Cube Radio.
Rapport choc, donc, de la protectrice du citoyen sur la première vague, les décès en CHSLD pendant la première vague de la COVID-19 en mars, surtout avril, mai, jusqu'au début juin 2020. Sol Zanetti, porte-parole de Québec solidaire pour les aînés, est avec nous. Bonjour.
Bonjour, M. Dumont.
Qu'est-ce que vous retenez de ce rapport?
Écoutez, l'affaire la plus scandaleuse, à mon avis, c'est que on avait la semaine dernière une ancienne ministre de la Santé, Mme McCann, qui nous dit, dès janvier, on a demandé au CHSLD de s'organiser, de se préparer à la pandémie. Puis la réalité, là, ce que la protectrice du citoyen nous dit aujourd'hui, c'est qu'il n'y a rien eu, aucun plan avant mars 2020. Avant là, que vraiment tout éclate puis qu'on tombe en état d'urgence, ça veut dire qu'on a complètement, pendant tout ce temps-là, abandonné les aînés du Québec dans les CHSLD qui étaient vraiment pas équipés pour faire face à ça. Puis on les a complètement abandonnés. Puis pour ça, là, la CAQ a absolument aucune excuse.
Mais vous dites que ça vient en contradiction avec ce qui a été dit la semaine passée. C'est vrai que la ministre McCann a dit cette phrase-là. Mais en même temps, il me semble que tout indiquait, dans le témoignage du Dr Arruda, dans le témoignage de Mme McCann, tout indiquait que rien avait été fait, là, que ça avait été mentionné aux gens des CIS et des CIUS de peut-être préparer quelque chose, mais que rien avait été fait, que rien avait été préparé. Il me semble que c'est une confirmation. Moi, j'avais déjà ce sentiment-là que les CHSLD avaient été l'angle mort, puis qu'il ne s'était rien fait en préparation. C'était pas votre sentiment avant le rapport?
Ben, quand l'ancienne ministre dit qu'il y avait des choses qui se préparaient, puis que finalement on réalise.
Elle a dit que ça avait été dit au patron des CIS et des CIUS une petite fois fin janvier, là.
C'est ça.
Ouais.
Ben, c'est très problématique. C'est très problématique. Puis ce rapport-là, justement, de la protectrice, non seulement il vient contredire ce que le gouvernement prétendait par rapport à son niveau de préparation sur la question des CHSLD, mais aussi, il indique des failles extrêmement importantes du réseau de la santé du Québec, puis aussi du réseau des CHSLD, encore plus précisément, que sur lesquels il va falloir travailler, puis croire que le gouvernement vraiment décide qu'il fait quelque chose, parce qu'en ce moment, là, on voit pas justement là un gouvernement qui est en train d'aller dans cette direction-là, de réformer la façon dont c'est organisé, puis la façon dont c'est géré les CHSLD au Québec.
Qu'est-ce qui devrait être fait de plus? Les deux choses principales que le gouvernement a fait présentement, c'est de mettre un boss dans chaque boîte, là, un boss dans chaque établissement, et sa méga campagne de recrutement là, de préposés aux bénéficiaires. Qu'est-ce qui doit être fait de plus? Quelles sont les recommandations supplémentaires qui, selon vous, viendraient changer le cours des choses?
Ben, il y a clairement, dans le rapport, en fait, je veux dire, moi, les conclusions que je fais, parce que vous savez, la protectrice, elle fait des recommandations sur des objectifs à atteindre, mais elle s'avance pas beaucoup sur les moyens parce qu'elle laisse les partis politiques, disons, s'occuper de ça. Mais ce qui est clairement identifié comme un problème, c'est que, avec un réseau de CHSLD bigarré, là, c'est-à-dire, vous en avez des publics, après ça, vous en avez des privés conventionnés, puis après ça, des privés non conventionnés, c'est extrêmement difficile à coordonner en temps de pandémie, voire impossible. C'est extrêmement difficile de savoir vraiment ce qui se passe, de s'assurer que tout est bien géré. Alors, la solution à ça, pour nous, c'est assez évident, c'est qu'il faut nationaliser l'ensemble des CHSLD pour qu'ils soient tous dans le public, puis qu'on soit capable d'avoir une gestion cohérente.
Mais là, je comprends un peu. Vous me dites que le gouvernement est totalement incompétent pour gérer, ce avec quoi je suis plutôt d'accord. C'est les CHSLD privés conventionnés là, qui semblaient en tout cas avoir un petit peu plus, même s'ils ont été avertis à la dernière minute, ils ont eu des meilleurs résultats. Alors vous dites faut.
Mais Aaron, c'était privé.
Non, ça c'était privé non conventionné. Privé non conventionné, ça aurait jamais dû exister. On se comprend, c'était rien. Là. C'est un entre-deux. Le gouvernement s'est mis à acheter des places en temps de pénurie. Ça c'est un beau bordel là. Mais les privés conventionnés ont mieux fait que le gouvernement.
Ben, je suis pas d'accord avec vous. C'est que ce qu'il faut, c'est qu'on ait un réseau qui soit coordonné vraiment bien. Puis la meilleure façon de faire ça, c'est quand c'est dans le réseau public, parce que c'est le plus gros employeur aussi. Puis on est capable d'avoir des mesures qui sont égales partout, puis aussi des conditions de travail qui sont égales partout. Puis ça, c'est extrêmement important. Un des gros vices là, structurels, même systémiques, que disait la protectrice, c'est l'inégalité dans les conditions de travail du monde dans le réseau de la santé. Quand ils sont publics, quand ils sont privés, ils n'ont pas les mêmes salaires, puis ça crée des pénuries, je dirais, là, qui sont comme des vases communicants d'un bout à l'autre des CHSLD. Mais ça, c'est extrêmement problématique. Il faut qu'on soit capable de donner des conditions qui sont équivalentes partout dans le réseau, que ce soit du monde qui sont dans le public, dans le privé non conventionné, dans des OBNL, dans des organismes communautaires qui font la même job. Mais ça, c'est pratiquement impossible. Quand c'est privé, tu peux pas commencer. Tu sais, c'est privé aussi public. À un moment donné, là, ils gèrent ça ou c'est nous qui le gérons. Puis pour avoir une main-d'œuvre stable, une main-d'œuvre qui bouge pas, une main-d'œuvre qui reste, une main-d'œuvre qui sur laquelle on peut compter même en temps de pandémie, il faut qu'on rende tout ça dans le giron public.
Mais non, mais plus personne ne veut travailler pour le gouvernement. Tout ce qui est gouvernemental est en pénurie de main-d'œuvre. Et puis, vous dites, faut tout rentrer au gouvernement, mais les pires pénuries de main-d'œuvre sont dans tout ce qui est gouvernemental. Tout ce qui est privé finit par s'arranger pour trouver de la main-d'œuvre. Tout ce qui est l'État, dès que c'est l'État qui est l'employeur, les syndicats veulent plus travailler pour, c'est des grèves, c'est le bordel, s'il y a rien qui marche. Dès que c'est l'État qui gère, il y a rien qui marche. Puis là, vous me dites, faudrait que l'État gère tout. Mais non, mais c'est vrai. Dès que c'est l'État qui s'en occupe, les pénuries de main-d'œuvre sont partout dans l'État, là, partout.
Monsieur Dumont, les gens, là, ce qu'ils cherchent, c'est des bonnes conditions de travail. Ce qu'il faut, c'est donner des bonnes conditions de travail au public pour s'assurer qu'on ait du monde pour assurer les services essentiels. Fait que c'est ça la solution là. C'est pas l'idée de dire on va amener les aînés dans des endroits où les gens vont avoir pour intérêt de faire du profit sur leur dos, qu'on va donner des meilleures conditions de travail aux gens. Regardez les CHSLD là, CHSLD privé, ça vous commence à gagner un préposé aux bénéficiaires, c'est entre 13 et 16 piastres de l'heure, c'est vraiment pas beaucoup. Non. Dans le public, combien ils gagnent? Ben ils gagnent plus, ils gagnent à peu près 20 piastres de l'heure, des fois un petit peu plus. Dépendamment de l'échelle salariale. Mais
dans les privés conventionnés, ils sont sur les mêmes conventions.
Comment il s'est fait le transfert de main-d'œuvre dans la pandémie? Il s'est fait du monde du privé qui était mal payé vers le public et c'est pour ça que le gouvernement a dû payer des primes supplémentaires COVID aux gens dans les CHSLD privés parce qu'ils n'étaient pas capables de payer leur monde parce qu'ils voulaient se faire du profit sur le dos des aînés. Fait qu'arrêtez-moi votre privatisation des CHSLD. C'est une affaire qu'il faut retenir de la pandémie. C'est bien ça. C'est que le privé doit sortir des CHSLD, puis qu'il faut qu'on ramène ça dans le public, là où on n'est pas là pour se faire du cash sur le dos du monde, là où on est là pour aider, pour servir, puis pour s'occuper des gens.
C'est ce que le public fait, selon moi. J'essaie de comprendre. Parce que personne ne veut faire du cash, et tu fais un profit normal, c'est parce qu'une entreprise qui obère. C'est que vous êtes contre l'entreprise privée, mais ça, c'est philosophique. C'est pas pour donner des meilleurs soins.
Non, c'est pas pour donner des meilleurs soins
aux aînés, parce que les pires soins aux aînés ont été donnés dans le public. Mais là, on est rendu sur une discussion philosophique. Je reviens à l'enquête de la protectrice du citoyen.
Le privé n'a pas sa place en santé, M. Dumont, c'est ce que je suis en train de dire.
Ouais. En France, en Belgique, en Espagne, en Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni, en Suède, modèle socialiste du monde, en Finlande, en Norvège. Voulez-vous que je continue des pays où le privé a sa place en santé? Je peux continuer?
Ben, écoutez,
il y en a trois comme le Canada. Le Canada, Cuba et la Corée du Nord.
S'il y a une place où le privé a sa place en santé en ce moment, c'est-à-dire là où il a une place, il ne devrait pas en avoir, mais il en a une, c'est le Québec. La première ligne au Québec est énormément privatisée. Toutes les GMS, c'est des entreprises privées. Il y a énormément de privés en santé, il y en a beaucoup trop. Puis là où ça a dérapé dans le cadre de la pandémie, c'est dans les CHSLD privés. Aaron, c'est privé. Ils ont pas été capables de maintenir leur main d'œuvre parce qu'ils payaient pas leur monde malgré qu'ils cherchaient 10 000 piastres par mois à du monde. Rendez-vous compte de ça. Ils chargeaient 10 000 piastres. Ils payaient les préposés 13, 14, 15 piastres de l'heure. Puis tout le monde s'en allait, puis là, fallait payer des agents.
Vous me parlez...
C'était le bordel, le privé en santé, monsieur.
Vous me parlez pas d'un vrai privé, là.
Années 90.
Ouais, vous me parlez pas d'un vrai privé, vous parlez du privé non conventionné, puis je vous ai reconnu tout à l'heure que ça, c'est un bordel qui s'est développé pendant la pénurie de places des gouvernements de toutes les couleurs qui se sont mis à acheter des places en panique. je défendrai jamais le privé non conventionné, c'est une affaire qui aurait jamais dû, on se comprend. Aaron n'aurait jamais dû exister, et tous les autres privés non conventionnés. Je vous ramène à l'enquête de la protectrice du citoyen. Est-ce que ce rapport-là, puis là, il s'en vient celui de la coroner, là, bon, le temps qu'elle rédige, là, est encore dans ses travaux, mais dans quelques mois, est-ce qu'au terme de ces rapports, vous allez maintenir votre demande d'une commission d'enquête là, sur ce qui s'est passé? Parce que c'est, les citoyens vont être partagés, ils vont dire, bon, on a quand même, comme le rapport de la protectrice, là, il y a du matériel là-dedans, il y a des constats très durs pour le gouvernement, des recommandations. Est-ce qu'on va en apprendre plus? Est-ce que ça va valoir les millions et les années d'une commission d'enquête? Ou est-ce qu'on va dire, ben on a nos réponses?
Ben, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il faut absolument pas attendre pour agir. Avec le rapport de la protectrice du citoyen, il faut appliquer les recommandations dès maintenant. Quand la coroner, Mme Kamel, va fournir ses recommandations, il va falloir les appliquer aussi. Cela dit, ces enquêtes-là, malgré qu'elles soient très pertinentes et très bien faites, elles font pas le tour de la question. Nous, ce qu'on veut, c'est une commission d'enquête publique sur l'ensemble de la pandémie, pas juste ce qui s'est passé dans les CHSLD dans la première vague, comme c'est le cas actuellement, mais on veut savoir aussi comment ça a été géré dans le milieu d'éducation, par exemple, puis dans d'autres domaines. On veut avoir un portrait global, parce que quand ça va arriver, si ça arrive à nouveau une pandémie, là, il faut qu'on soit prêt, puis il faut qu'on soit prêt pas mal plus que juste dans les CHSLD, il faut qu'on soit prêt partout. Alors, ça serait que ça servirait. Donc, on agit maintenant, on applique les recommandations, mais aussi pour le long terme, on se prépare si jamais il y a une prochaine fois.
Mais vous êtes conscient que c'est une... Je vous entends bien, là, mais c'est une méga commission d'enquête. Là. C'est un travail colossal qu'il faudra expliquer à la population dans quoi on s'embarque.
Oui, mais je pense que les près de 10 000 morts qu'il y a eu dans la COVID
justifient,
je pense, qu'on fasse ce travail-là. Et puis, je pense pas que les gens vont trouver que ça coûte trop cher, là, parce que les vies humaines que ça pourrait sauver vont être encore plus importantes.
Sol Zanetti, merci d'avoir été là.
Merci, M. Dumont.
Au revoir. Discussion animée avec le porte-parole en matière de santé de Québec solidaire, Sol Zanetti. On s'arrête.